Sur les conseils avisés du comte, expérimenté en poison et antidote, Madame de Villefort empoisonne sa belle-fille Valentine de Villefort, qu'elle veut évincer de l'héritage paternel. Mais la boisson mortelle frappe une deuxième fois. Édouard de Villefort, le fils du procureur, qui échappe à la vigilance de sa mère, ingère la boisson sucrée. L'abbé Busoni arrive chez les Villefort pour veiller le corps de Valentine. Les deux hommes se rencontrent. Villefort, en apercevant l'abbé, porta la main à son front. Le passé lui revint comme une de ces vagues dont la colère soulève plus d'écume que les autres vagues. Il se souvint de la visite qu'il avait faite à l'abbé le surlendemain du dîner d'Auteuil et de la visite que lui avait faite l'abbé à lui-même le jour de la mort de Valentine. « Vous ici, monsieur ? » dit-il. « Mais vous n'apparaissez donc jamais que pour escorter la mort ?» Busoni se redressa, en voyant l'altération du visage du magistrat, l'éclat farouche de ses yeux, il comprit ou crut comprendre que la scène des assises était accomplie. Il ignorait le reste. « J'y suis venu pour prier sur le corps de votre fille, » répondit Busoni. « Et aujourd'hui, qui venez-vous faire ? Je viens vous dire que vous n'avez pas assez payé votre dette, et qu'à partir de ce moment, je vais prier Dieu qu'il se contente comme moi. » « Mon Dieu !» fit Villefort en reculant, l'épouvante sur le front. « Cette voix, ce n'est pas celle de l'abbé Busoni ?»« Non. » Et l'abbé arracha sa fausse tonsure, secoua la tête, et ses longs cheveux noirs, cessant d'être comprimés, retombèrent sur ses épaules et encadrèrent son mâle visage. « C'est le visage de Monsieur de Monte-Cristo ?» s'écria Villefort, les yeux hagards. « Ce n'est pas encore cela, monsieur le procureur du roi. Cherchez mieux et plus loin. »« cette voix, où l'ai-je entendue pour la première fois ?»« Vous l'avez entendue pour la première fois à Marseille, il y a 23 ans, le jour de votre mariage avec mademoiselle de Saint-Méran. Cherchez dans vos dossiers. »« Vous n'êtes pas Busoni, vous n'êtes pas Monte-Cristo, mon Dieu. Vous êtes cet ennemi caché, implacable, mortel. J'ai fait quelque chose contre vous à Marseille. Oh, malheur à moi !» « Oui, tu as raison, c'est bien cela, » dit le comte en croisant les bras sur sa large poitrine. « Cherche, cherche !»« Mais que t'ai-je donc fait ?» s'écria Villefort, dont l'esprit flottait déjà sur la limite où se confondent la raison et la démence dans ce brouillard qui n'est plus le rêve et qui n'est pas encore le réveil. « Que t'ai-je fait ? Dis, parle !»« Vous m'avez condamné à une mort lente et hideuse. Vous avez tué mon père. Vous m'avez ôté l'amour avec la liberté et la fortune avec l'amour. » « Mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous donc, mon Dieu ? Je suis le spectre d'un malheureux que vous avez enseveli dans les cachots du château d'If. À ce spectre sorti enfin de sa tombe, Dieu a mis le masque du comte de Monte-Cristo et il l'a couvert de diamants et d'or pour que vous le reconnaissiez qu'aujourd'hui. » « Ah, je te reconnais, » dit le procureur du roi. « Je suis Edmond Dantès. »« Tu es Edmond Dantès ?» s'écria le procureur du roi, en saisissant le comte par le poignet. « Alors viens !» Et il l'entraîna par l'escalier, dans lequel Monte-Cristo, étonné, le suivit, ignorant lui-même où le procureur du roi le conduisait et pressentant quelques nouvelles catastrophes. « Tiens, Edmond Dantès, » dit-il en montrant au comte le cadavre de sa femme et le corps de son fils. « Tiens, regarde, es-tu bien vengé ?» Monte-Cristo pâlit à cet effroyable spectacle. Il comprit qu'il venait d'outrepasser les droits de la vengeance. Il comprit qu'il ne vous pouvait plus dire « Dieu est pour moi et avec moi ». Il se jeta avec un sentiment d'angoisse inexprimable sur le corps de l'enfant, rouvrit les yeux, tâta le pouls et s'élança avec lui dans la chambre de Valentine qu'il referma à double tour. « Mon enfant !» s'écria Villefort. « Il emporte le cadavre de mon enfant !»« Oh, malédiction, malheur, mort sur toi !» Et il voulut s'élancer après Monte-Cristo. Mais comme dans un rêve, il sentit ses pieds prendre racine. Ses yeux se dilatèrent à briser leurs orbites. Ses doigts recourbés sur la chair de sa poitrine s'y enfoncèrent graduellement jusqu'à ce que le sang rougît ses ongles. Les veines de ses tempes se gonflèrent d'esprits brouillants qui allèrent soulever la voûte trop étroite de son crâne et noyèrent son cerveau dans un déluge de feu. Cette fixité dura plusieurs minutes, jusqu'à ce que l'effroyable bouleversement de la raison fût accompli. Alors il jeta un grand cri suivi d'un long éclat de rire et se précipita par les escaliers. Un quart d'heure après, la chambre de Valentine se rouvrit et le comte de Monte-Cristo reparut. Pâle, l'œil morne, la poitrine oppressée. Tous les traits de cette figure ordinairement si calme et si noble étaient bouleversés par la douleur. Il tenait dans ses bras l'enfant auquel aucun secours n'avait pu rendre la vie. Il mit un genou en terre et le déposa religieusement près de sa mère, la tête posée sur sa poitrine.